fait, et pour certains, vous y avez assisté à un cycle de conférences sur la guerre de 14-18. Moi, je n'ai pas attendu 14 pour m'intéresser au sujet. Et lorsqu'on en a reparlé, il est évident que 14-18 pose pour moi un énorme problème en ce moment. Et ça ne peut pas comme tout à l'heure. C'est fou, ça. Voilà. Vous voyez, c'est informatique plus le papier, voilà. Bien. Donc, la guerre de 14-18 me pose un énorme problème parce que plus je lis des documents, plus j'entends des éléments sur la guerre de 14 et plus je suis sidéré. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, c'est ça ?
Oui, oui.
4 ans ? Hein, lorsqu'on avait, on avait pensé faire la guerre de 14-18, c'était avec la disparition du dernier poilu et puis le temps d'organiser cela, le dernier poilu français était mort et le dernier poilu anglais, qui était le dernier combattant de la guerre, qui était un Anglais, est à son tour décédé. Donc on avait une page de refermée et je pensais, bien naïvement, qu'il était temps de pouvoir bien traiter ce dossier en toute objectivité avec la distance suffisante. Eh bien non, autant on a vu des documents apparaître depuis une vingtaine d'années, on voit des documents qui réapparaissent, des éléments qui réapparaissent. On voit par exemple quelqu'un comme le général Bach, qui a été responsable des archives à Vincennes, éplucher l'ensemble des fonds à Vincennes et nous sortir les documents sur les fusillés pour l'exemple. Eh bien, aujourd'hui, on a l'impression que le débat pour les fusillés pour l'exemple, c'est encore une honte et un scandale. Le scandale, c'est qu'on ait encore débat sur cette question. Hein ? Alors, par exemple, l'un des scandales qui se pose pour moi, c'est qu'on va me dire, oui, on va le voir tout à l'heure d'ailleurs dans le film « Les Sentiers de la Gloire ». On se dit, mais toutes les armées font ainsi. Eh bien non. Il faut quand même qu'on dise un certain nombre de faits, et c'est un petit peu, c'est un petit peu mon propos aujourd'hui. Les pays ont demandé, les armées ont demandé à leur pays de bien vouloir leur laisser plein droit de justice et de vie et de mort sur les hommes. Et donc on dit, toutes les armées font ça. Eh bien non. Le gouvernement central australien, lui, a refusé de confier aux militaires la justice en prétextant deux éléments. Tout d'abord, il n'avait pas la formation juridique pour le faire, premièrement. Deuxièmement, qu'ils étaient à la fois juges et parties, ce qui est inconcevable au niveau d'un tribunal. Voilà deux éléments d'une simplicité totale qui aurait dû faire que toutes les armées auraient dû pratiquer de la même manière. Deuxième élément, je suis au regret pour la France, mais bien souvent, vous savez, on est les premiers, là on est les derniers. La plupart des autres pays qui ont eu des fusillés, il y en a eu quand même, hein, des fusillés pour l'exemple. Déjà, fusillés pour l'exemple, moi je ne peux pas, je ne comprends pas la notion de pour l'exemple. Mais la plupart des pays qui ont eu des fusillés pour l'exemple ont passé l'éponge. L'amnistie a été votée. Hein, un peu comme Hugo, on va dire, et s'il n'en reste qu'un, nous serons celui-là. Bien, toujours sur ce problème, par exemple, des fusillés pour l'exemple. Là, on va le voir dans les Sentiers de la Gloire, vous allez voir des gens qui vont être fusillés pour l'exemple. C'est censé se passer en 1916. Alors, autant dans le film, comme dans le livre, nous avons toute une série d'éléments qui indiquent qu'il y a justement des fusillés pour l'exemple. Ce que vous verrez est, on va dire, dans 98 à 99% des faits, hein, pas de la présentation, des costumes, etc., mais des faits, est exact. Hein, je dis bien exact. Il n'y a qu'une chose qui est inexacte, c'est que ça arrive vers la fin de la guerre. C'est-à-dire que les fusillés, pour l'exemple, paradoxalement, c'est au début de la guerre qu'on les a alignés. Et pas quelques-uns. Hein. Là, on dit, oh, on va en tuer 100. Bon, 12. Bon, 3. À la fin de la guerre, Poincaré qui s'aperçoit que faut vraiment calmer le jeu. Faut arrêter. Faut arrêter parce que l'armée va exploser. Interdit qu'un condamné à mort soit exécuté sans qu'il ait eu le dossier et la possibilité de le gracier. Ce qui fait que, lorsqu'on parle des fusillés, pour exemple, on dira, ah ben, c'est une inflation. C'est pas une inflation du tout. Au contraire, hein, à partir des affaires Nivelle et Pétain, hein, le fameux chemin des dames, où il y aura encore 70 fusillés, quand on connaît les conditions mises en place du chemin des dames, lorsqu'on sait que Nivelle, qui avait commandé l'opération, avait dit « si au bout de 3 jours, on n'a pas percé, il faut arrêter », et que 3 semaines après, on envoyait encore des régiments entiers, sur des pentes à 45%, on les envoyait non pas avec le matériel de base, mais avec tout le matériel. Hein ? Les hommes qui ont fait le service militaire peuvent comprendre ce que veut dire 25 kilos sur le dos, il leur fallait aussi la pelle, des fois qu'ils a creusé une petite tranchée là-haut. Donc, évidemment, la guerre de 14, dès qu'on commence à creuser, dès qu'on commence à chercher, dès qu'on commence à voir les documents, il y a des choses qui ne passent pas. Alors, gentiment, on essaye de nous faire passer une jolie petite soupe avec des jolies petites images, alors selon les goûts de certains, sulpiciennes ou d'épinal. On essaye de nous faire croire des choses qui tiennent du malais Isaac. Ça ne marche pas du tout. C'est pas vrai. Là, par exemple, j'ai pris un petit peu dans la presse. Il y a 2 ouvrages qui sont sortis. Il y en a un, je vous recommande de ne pas l'acheter. Et si vous l'avez acheté, de le garder comme un exemplaire précieux d'une bêtise crasse. Et pourtant, c'est fait par des universitaires. Bon, ils ont dû être payés pour faire la page rapidement. Et on aurait dû dire, surtout, il faut dire des bonnes choses de ça. Hein ? Donc là, vous avez un exercice absolument fabuleux qui consiste à dire « Joffre est une gloire de la France ». Vous verrez dans 1 heure et demie ce que je peux penser de cet individu. Deuxième élément, Agnès Oramonnet, un hors-série du monde diplomatique. Hein, alors les hors-séries du monde diplomatique sont très très bien faits, mais alors celui-là est exceptionnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent, il y a une 30aine d'années, il y a un livre qui avait fait un petit scandale dans le monde de l'éducation, qui avait été rédigé par Claude Duneton, qui s'appelait l'anti-manuel de français. Hein, qui était un livre, alors à l'époque ça avait fait un petit scandale, hein, certains pédagogues s'en sont servis, moi aussi, hein, un outil fabuleux qui consiste à dire qu'on peut peut-être sortir des grandes vaches sacrées, hein, des grands textes littéraires pour présenter un certain nombre de choses. Et parfois c'est plus simple, c'est plus agréable, et les enfants le comprennent beaucoup plus vite. Mais c'est un petit peu ce qu'ils ont fait ici. C'est-à-dire qu'ils prennent des grands éléments classiques de l'histoire et vous disent, ça c'est ce qu'on vous racontait. Et en réalité, voilà les faits. Et c'est intéressant parce que dans ce manuel d'histoire critique, ils vous mettent, par exemple, vous avez la déclaration Balfour. Voilà une des conséquences directes de la guerre de 14. Le démantèlement de celui qu'on appelle... Alors, il y a plusieurs vieux hommes à l'époque. Hein. C'est l'Autriche-Hongrie, le vieil homme malade de l'Europe. C'est François-Joseph, parfois, qui est juste le vieil homme malade. Parfois, c'est l'Empire ottoman. Bon, l'Empire ottoman est en train de complètement se démanteler. Il lui a fallu presque 3 siècles pour le faire, donc pas mal quand même. Mais là, on est vraiment sur la fin. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va démanteler toute la partie que les Anglais appellent le Proche-Orient. Et cette partie que les Anglais appellent le Proche-Orient, ils vont se la diviser en fonction des intérêts locaux.
On aura une conférence là-dessus.
Oh, vous voyez, donc tout est connecté de toute manière, c'est simple. 14-18 va être le lieu autour duquel on va pouvoir ramener toute une série, et je dis toute une série d'éléments, pour les voir rejaillir jusqu'aujourd'hui. Et là, on retrouve évidemment hein, 2 petits principes. Le principe de Nietzsche qui dit « si vous ne connaissez pas l'histoire, vous êtes condamné à la revivre ». Et là, je vais vous dire que je vois les plats de soupe repasser les uns à la suite des autres. Et je dis « mais un peu comme un certain Premier ministre français, les cons, ils n'ont rien compris, hein, en descendant de l'avion après avoir vu Adolphe. » Les Français ont applaudi. Ça fait penser un peu à la façon dont on célèbre aujourd'hui cette année 14. Et puis la deuxième, hein, c'est Karl Marx qui parle de cette vieille taupe de l'histoire qui, si vous la maîtrisez pas, elle va ressurgir régulièrement. Voilà. Donc la guerre de 14, ça pose un problème, ça pose un énorme problème simplement parce que qu'est-ce que c'est que cette année 14 ? À une époque, je voyais Sarajevo, un tir de pistolet, un éclair de tonnerre dans un ciel bleu. Un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Alors, c'est simple, soit le type était con, soit il était ignare. Généralement, les deux, parfois, font la paire, malheureusement. Alors, je vais démarrer un petit peu sur 3 axes. Le premier, c'est ma vieille marotte. Hein. Vous savez que bien souvent, j'aime présenter un sujet en partant avec le dictionnaire, avec le langage. Le deuxième élément, c'est faire un petit peu la revue des effectifs. C'est qu'on nous dit un ciel bleu, mon œil, vous allez voir comment le ciel est couvert. Hein. Déjà à l'époque, au niveau de la météo, il se trompait. Ensuite, un dernier point, c'est justement cette année 14. Qu'est-ce que c'est que cette année 14 ? On est en train de la commémorer. Et je suis sidéré de la manière dont on le fait. Mais vraiment sidéré. Quand je vais vous donner les faits, vous allez dire, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la bonne histoire. Hein? Premier fait, la guerre de 14 sera le lieu de la création langagière la plus extraordinaire du XXe siècle. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a un brassage des peuples, un brassage des régions, un brassage des classes sociales. Et ce brassage-là est énorme. Et pour le coup, là, il est véritablement mondial. Et donc, on va avoir un brassage des populations qui va nous amener à créer des mots nouveaux. Alors, mots nouveaux que l'on va créer, alors, il y en a un tout premier qui est dû à 1914, c'est le verbe limoger. Alors, le verbe limoger, c'est simple, c'est le général Joffre, maréchal, qui décide... Hein, général, mais il soit déjà maréchal, lui, il n'y a pas de problème. Et il s'aime beaucoup. Hein. Il est depuis 3 ans à la tête de tout ce qui est l'organisation militaire. Il a cumulé les 2 chapeaux, hein, c'est un beau cumulard pour l'époque, puisqu'il est à la fois responsable des armées et en même temps, il est responsable de la nomination des généraux au sein des armées. Donc techniquement, c'est Monopoly. Hein, il a autour de lui une équipe en or. Bon. Ben, il va demander à pouvoir bénéficier du droit de pouvoir mettre en disposition une caserne, et ça sera très souvent celle de Limoges, hein. Mais il y en a d'autres qui ont affecté à Toulouse, d'autres à Lyon, d'autres à Rennes. Hein. Donc on aurait pu parler de rénifier, lyonifier ou de toulousifier, mais on a gardé la notion de limoger. Bien, donc il a demandé à pouvoir... faire disparaître un certain nombre de soldats, officiers supérieurs, général de corps d'armée, 2, 3, 4 étoiles, avec lequel il a commencé la guerre, qui sont ses compagnons, ceux qu'il a nommés ou qu'il a fait nommer, lui ou le général André. Ah oui, mais là, il va falloir repartir dans notre histoire. Nous avons une vieille querelle à l'intérieur de cette Troisième République. Nous avons un bon camp laïque, radical socialiste, franc-maçon, et puis nous avons une opposition, catholique, un petit peu royaliste, traditionnaliste, de plus en plus d'ailleurs montante en expression. L'Action française est présente, mais vous avez aussi Barrès, nous avons Déroulède avec son petit clairon. J'ai pensé un moment vous lire du Déroulède et puis j'ai pas pu. J'ai pas pu. Si vous voulez, je vous donne l'adresse des Champs du Soldat sur Gallica, c'est disponible, mais non. Non, il y a un moment où il faut s'arrêter, quoi. C'est assez effarant. J'en avais souvenir que de quelques extraits. J'ai relu l'ensemble. Si vous voulez vraiment vous punir, faites-le. Mais c'est aussi révélateur. Ça veut dire qu'évidemment, en 14, on n'attendait absolument pas les Allemands et on ne voulait absolument pas aller les affronter. Oh non ! On avait juste mis une région en noir sur le coin de la carte dans toutes les écoles de France. Bien, donc le général André, qui est présent depuis quasiment le début du siècle, ensuite Joffre, ont nommé toute une série de généraux, plus pour leur compatibilité politique et maçonnique. Et donc ça s'est appelé une affaire, c'est l'une des nombreuses affaires de cette Troisième République qui les a, mais alors collectionnées comme c'est pas permis, l'affaire des fiches. Et dans cette affaire des fiches, eh bien, un certain nombre d'officiers supérieurs ont vu leur carrière bloquée. L'un d'entre eux, d'ailleurs, est particulièrement connu, puisque c'est Pétain. Hein. Il manque d'être lui aussi dans la tournée des Limogés. Hein. Il est colonel, et je dirais que, coup de chance, la guerre le propulse général, et encore coup de chance, il y a tellement d'autres limogeables possibles qu'il faut quand même qu'on garde quelques officiers supérieurs. Donc il va, du coup, monter en puissance, et alors, détesté par Joffre. Hein. Bien, donc premier verbe, limoger. Limogé. À l'été 1914, on commence avec 344 généraux, 2 à 4 étoiles. On doit en avoir 425, ça veut dire qu'il y a des unités qui n'ont pas de généraux. Ah ben oui, c'est la réalité sur le terrain. Eh bien, Joffre va s'entourer d'un certain nombre d'hommes particulièrement compétents. 3 hommes compétents, dont un jeune futur général, il n'est que lieutenant-colonel à l'époque, vous le connaissez tous. Hein, il remplacera Joffre pour la guerre suivante, puisque on choisit un incompétent et on le remplace par l'incompétent qui était son secrétaire ou son suivant, et c'est Gamelin, le général Gamelin, qui va, enfin le lieutenant-colonel Gamelin à l'époque, qui va choisir les gens qu'il faut limoger. Sur les 344 supposés généraux actifs, il y en a un certain nombre qui sont morts, parce qu'en 14, nous avons encore une déplorable habitude qui date de la Révolution française et surtout de l'Empire, du Premier Empire, c'est que les soldats doivent suivre leur officier au combat. Donc, les officiers montent à l'assaut, en première ligne, en tête de leurs hommes. Ça va faire des dégâts dans les quartiers d'état-major. On va perdre une soixantaine de généraux comme ça. Une soixantaine. Alors après, on va les garder, nos généraux, en ligne, en arrière-ligne et même en arrière-arrière-ligne. À un tel point qu'ils ne connaîtront même plus la réalité du terrain pour certains. C'est-à-dire que dans certains endroits, on a des témoignages, par exemple, d'hommes qui ont vu plus souvent des députés ou des sénateurs faire un tour dans les tranchées que leurs propres généraux. Ah oui, c'est bon. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? On fait avec, on n'a pas le choix. Donc on a un ministre de la guerre, le général André, homme très sectaire. On va le remplacer, parce que on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait efficace. Mais Joffre, on va le garder. Ça ne sera pas très efficace. Ministre de la guerre. Tiens, ministre de la guerre. Nous n'aurons plus de ministère de la guerre, nous. On a un ministère de la défense, mais depuis quand? Ah, ben c'est simple. À la sortie de la Première Guerre mondiale, on a arrêté de parler du ministère de la guerre et on est passé au ministère des armées. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes passés au ministère de la défense. Ce qui montre bien la position de la France en l'espace de deux guerres mondiales. On est passé d'une position offensive à une position purement défensive. Enfin, quand je vois les engagements français dans le monde aujourd'hui, je me demande où est la position défensive. Donc, on a cette position, ministre... Eh bien, vous voyez, ça, c'est encore ce que trahit involontairement le langage. Les mots apprennent des choses sur l'histoire. Et puis, le dernier élément, alors, on a ressorti deux ou trois lexiques sur le langage des tranchées, l'inventivité des troufions. Alors évidemment, il y a une inventivité qui est complètement folle. On en avait retrouvé une partie avec Jean-Galtier-Boissière qui avait utilisé ça dans Le Crapouillot. Le Crapouillot. Tiens, d'ailleurs, pourquoi sa revue s'appelait Le Crapouillot? Jean-Galtier-Boissière, combattant de première ligne. Alors il y avait une ligne de décoration comme ça, c'était quasiment un général russe, enfin soviétique, c'est encore pire. Et donc il avait une collection de médailles absolument effarante et il était resté complètement rebelle. Il a baptisé sa revue, qui était une revue de toutes les oppositions, Le Crapouillot. Pourquoi? Bien du nom de notre petit mortier, le petit mortier de tranchée. Car au passage, on peut découvrir, lorsqu'on connaît un petit peu l'histoire, lorsqu'on va regarder les faits, lorsqu'on se dit, mais pourquoi est-ce que ça s'appelle Le Crapouillot? Ah, parce qu'il était mal foutu, ce truc-là. Il y avait une espèce d'équerre, on essayait de régler un canon là-dessus, ça marchait plus ou moins bien. Mais c'est tout simplement parce que notre armée française et notre général et notre brillantissime chef des armées, qui était un général du génie, Et généralement, on a le titre de ce qu'on maîtrise le moins. Donc, il devait en principe connaître un petit peu tout ce qu'était l'artillerie. Alors, l'artillerie ne l'intéressait pas du tout. Donc, nous n'avions pas, en 1914, de mortier. Nous n'avions pas d'obusier de tranchée. Non. Donc, lorsqu'on a commencé à s'enterrer en 14, on a utilisé des obusiers de tranchée qui étaient remisés, on ne sait dans quel arsenal, des obusiers en bronze qui dataient de Louis-Philippe. C'était ça l'équipement de l'armée française. Tiens, en parlant d'équipement, nous avions évidemment, alors on le cite à chaque fois, les pantalons Garance. Oui, mais les députés radicaux socialistes avaient beaucoup de fièvre dans le sud de la France, là où on cultivait la plante en question. Donc il n'était pas question de fâcher son électorat. Et oui, ça tient parfois à ça. Et nous avions ça, et nous avions une autre chose. Alors, c'est vrai que dans les représentations, a posteriori, on oublie, mais il y en a peu de photos de ces offensives. Il faut savoir que les offensives de la Marne, c'est-à-dire toute cette bataille, alors, avant l'offensive de la Marne, d'abord, première étape, l'occupation de l'Alsace et de la Lorraine. Parce que c'était ça, notre objectif, c'est l'Alsace et la Lorraine, l'Alsace et la Lorraine. Ce que faisaient les Allemands, on s'en fichait complètement. Nous, on a été en Alsace-Lorraine. Donc on est rentré, on s'est payé une tôle, on est ressorti. Les soldats sont partis. Ils n'avaient pas de casque. Les soldats qui partaient en ligne avaient, vous savez, cette casquette un peu comme le père Bugeaud avait, cette casquette héritière des armées de Napoléon III, cet uniforme-là, dont le général, qui était l'instructeur de Joffre, nous avait dit à Napoléon III, on le verra un peu plus tard, ça, hein, dans l'année, avait dit « Il ne manque pas un bouton de guêtre !» Mais bon, il manque 750 000 hommes sur les 1500 prévus, 1 500 000 prévus, mais pas un bouton de guêtre ne manque, hein. Au moins, ceux qui sont là, ils sont équipés. Enfin, presque. Enfin, si on retrouve tout le matériel, on arrive à le donner au bon endroit, aux bons hommes. Donc, on a envoyé ces jeunes-là se faire tuer, par milliers, en costume de clown, sans aucune protection. Et après, on leur a dit « Enterrez-vous et défendez-vous ». Des officiers sur place ont utilisé leur savoir et leurs connaissances, et il faut savoir que dans la première année, le temps qu'on ait un crapouillon, hein, puisqu'il est arrivé fin 1915, ils ont inventé, repris le principe de la baliste. Oui, de la baliste. Et on a inventé, pour pouvoir balancer des grosses, des espèces de mini, des mini-obus, des mini-fusées, on a inventé des arbalètes de tranchées. Je dis bien des arbalètes de tranchées. Et l'État français en a fait fabriquer 500. Pour pouvoir balancer des espèces de grenades, avant qu'on ait l'idée de se dire « Tiens, on a un fusil, tiens, si on mettait un système qui permette de balancer une grenade à partir d'un fusil. » Il a fallu 2 ans. Hein. Faut le temps. Il faut dire que depuis 71, la Troisième République s'y préparait, nom de Dieu. On allait les avoir, ce coup-là, les Allemands. Enfin, presque. De toute façon, on comptait rentrer dedans, on comptait pas rester sur place. Ça, c'est le grand langage. Hein, vous êtes d'accord, madame? C'est faux. C'est complètement faux. Alors, passons maintenant un petit peu à la revue des effectifs. Alors, on va garder la France pour la fin. On va commencer par les méchants, les vilains, les pas beaux, les Allemands. Alors, l'Allemagne. Bon, l'Allemagne, il faut dire, c'est clair, net et précis, on a un compte avec l'Allemagne. D'accord? On a fait un match. Ils ont fait 1-0. Mais c'est comme au football avec l'Allemagne. Je suis sûr que l'arbitre a triché. C'est la faute au goal. On a tous un goal allemand qui reste dans un coin de sa tête. Eh bien, en 14, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est forcément l'Allemagne qui va être responsable. Bien. Et l'Allemagne, évidemment, militariste, guerrière, etc. Non. Tant que ça a été Bismarck, il avait un système précis. Il a dit, je veux, en quelque sorte, sur le dos de la France, souder l'Allemagne avec le sang des Français. 1871, dans la Galerie des Glaces à Versailles, il a réussi son numéro. Et après, il a dit, maintenant, plus bouger. On essaye simplement d'être une puissance industrielle, parce que c'est un jeune État, et il faut que cet État-là se constitue et se mette en place. Et contrairement à ce qu'on pense, la Prusse, c'est pas parce qu'elle a gagné la guerre de 70 qu'elle avait déjà réunifié complètement toute l'Allemagne. Hein. Il y avait un énorme travail à faire en Allemagne, et Bismarck s'y est attelé. Et pour cela, les expéditions militaires, on évite. La colonisation, ça coûte cher, c'est loin. Est-ce que ça rapporte tant que ça? Et puisqu'on n'a pas des priorités chez nous. Hein, ils sont en retard sur les trains, ils sont en retard sur une partie de l'industrialisation de l'Allemagne. Il y a une partie de l'Allemagne qui est très industrialisée, mais il y a des pans qui ne sont pas du tout industrialisés, qui sont très ruraux. Donc, bon, on a réglé à peu près les problèmes avec les voisins. Les Autrichiens se sont pris une claque à Sadova, ils ne vont plus bouger. Les Russes, on les regarde du coin de l'œil, on s'en méfie, mais ils n'ont jamais réussi à nous battre, donc, sauf une fois, mais bon, encore c'était les chevaliers teutoniques, ce n'est pas vraiment les Allemands. Donc on est tranquille, et puis il y a tellement d'agitation en Russie. Et puis en 1905, la Russie va partir dans une guerre contre le Japon. Le Japon, vous imaginez, hein? Nicolas, qui pourtant a visité le Japon, hein, les appelle les macaques. Vous savez, quand vous commencez à ne plus respecter un adversaire, faut pas être surpris des résultats. Oui, ça va se finir. Une bataille, un nom, Tsushima, peut-être certains connaissent. Donc la bataille de Tsushima, c'est la flotte japonaise qui a attendu la flotte russe. Alors la flotte russe n'a pas pu passer par le nord, donc elle a fait le tour pour la mer de Memel. Ils sont venus de Memel, ils ont fait le tour là-bas de la Scandinavie, les autres ils sont sortis de la Baltique, ils ont descendu, on leur a interdit de rentrer en Méditerranée, de toute façon Suez était contrôlée par les Anglais et les Anglais ne voulaient pas qu'ils passent. Donc ils ont fait le tour de l'Afrique. Ils ont voulu passer par le canal de Madagascar, mais les Français ont dit non, vous ballez pas vos bateaux militaires là dans le coin. Donc ils sont passés au large de Madagascar, ils ont traversé l'océan Indien. Quand ils sont arrivés sur place, la moitié de l'effectif n'était plus là. Et on appelait ces bateaux les coules tout seuls. C'est évidemment, à Tsushima, ils se sont pris une claque monumentale et ils ont perdu toute leur flotte. Donc on se dit, bon, les Russes, ils vont nous ficher la paix, on va être tranquille. Bon, les Français, on leur a mis la pâtée, mais on les surveille du coin de l'œil, on ne les lâche pas. Donc, quelle est la politique de Bismarck? Une politique tranquille. Et puis, il s'est aperçu d'une chose, c'est que dès qu'on commence à mettre une coque sur l'eau, ça énerve les Anglais. Il n'y a rien à faire. Dès que vous mettez un bateau à l'eau, ça énerve les Anglais. Et plus vous les énervez, plus ils ont tendance à se réveiller. Donc, Bismarck a dit... Pas de politique provocatrice avec les Anglais. Donc, pas de bateau. De toute façon, vu notre façade maritime, on n'en a pas besoin. Bien, mais Bismarck n'est pas éternel. Et quand Bismarck meurt, eh ben, c'est un petit peu le problème pour l'Allemagne, c'est que ça part dans tous les sens. Il y a un premier courant qui est un courant pacifiste, qui est dirigé par un homme d'une très grande culture, un homme très raffiné, très intelligent, qui a du mal à s'imposer, qui s'appelle Bethmann Hollweg. Et Bethmann Hollweg va essayer de pousser Guillaume II vers le pacifisme. Et comme c'est un vieil ami de Guillaume II, il semble que ça fonctionne. Oui, mais ça arrange pas du tout, mais alors pas du tout, les intérêts des militaires prussiens, qui n'aiment pas ça du tout. La deuxième chose, ça n'arrange pas du tout les intérêts de M. Thyssen, de M. Krupp. Ah non, attendez, si on ne fait plus la guerre, on ne fait plus de canons, qu'est-ce qu'on va faire? Le canon, c'est rentable. Ah, c'est un canon, il faut l'alimenter. Quand vous avez une usine à canon, vous avez l'usine à obus qui est avec. Elle n'est pas livrée clé en main. Hein. Vous savez, c'est comme les imprimantes. C'est les consommables qui coûtent le plus cher. C'est un peu ça, Krupp. Il a parfaitement compris le système. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va financer les milieux militaristes pour dégrader l'image de Bethmann Hollweg. Il se trouve que Bethmann Hollweg avait des tendances homosexuelles. Enfin, il n'avait pas des tendances homosexuelles, mais il aimait les jeunes et faibles et il aimait les prendre en photo, plutôt déshabillés, plutôt sur les côtes italiennes, près de la mer, dans des poses suggestives. Donc, on va laisser gentiment courir le bruit que Guillaume II, avec Bethmann Hollweg, d'autres, ils se livrent à des petites opérations qui seraient plus ou moins, même pas des balais bleus, des balais roses, tout ça. Guillaume II, qui veut avoir une réputation d'homme, et puis il a un gros problème psychologique. Guillaume II, il a ce handicap physique qui fait qu'il a une main qui ne fonctionne pas, et donc il veut absolument prouver qu'il est capable de tout faire comme les autres. Et donc, hors de question qu'il passe pour un homosexuel, puis alors un homosexuel... Hein, empereur d'Allemagne, ça passe pas. Hein? Ah bah non, ça ne passe plus. Mais il n'était pas homosexuel, il n'était pas marié, il était au service de la Prusse. Et il était marié avec son armée. Bon, et il était marié en plus. Bon, il n'a jamais fréquenté sa femme, c'est autre chose. Hein? Bon, puis peut-être que sa femme y a trouvé son compte. Mais donc non, l'homosexualité marquée d'un homme comme Guillaume II, c'était sa perte. Hein, on est à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ça passe pas, c'est pas possible. Donc, Guillaume II va devoir se séparer d'une grande partie des gens qui sont autour de lui et qui sont des pacifistes. Le clan des militaristes a gagné. Et ça y est, c'est parti, on va faire tout ce que Bismarck nous a dit de pas faire. D'abord, on va faire des bateaux. On a vu les Anglais, ils ont lancé une nouvelle technique, c'est les dreadnoughts. Des terribles, des cuirassés lourds, mais tellement lourds qu'on se demande comment ils flottent. D'ailleurs, dès qu'ils vont se prendre un obus en dessous de la coque, ils vont couler. Les Anglais en lancent 1, en lancent 2, en lancent 3, pof, 29. Et qu'est-ce que font les Allemands? Ils se lancent dans la course poursuite. Chouchou, ils en lancent aussi. Ça énerve les Anglais. Ça les énerve. Ce qui fait que les Anglais et les Allemands commencent à être un peu fâchés. Juste petite anecdote comme ça, mais on oublie juste quelque chose. Mais la reine d'Angleterre, Victoria, c'est la grand-tante à Guillaume II. D'ailleurs, pour son anniversaire un jour, elle lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Non, pas le Tanganyika. Le Tanganyika, il l'avait déjà. Il a dit, je voudrais... Alors, il s'est concerté, etc. Puis, il a demandé à ses cartographes, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Je pourrais prendre un... Il a dit, je voudrais la plus haute montagne d'Afrique. Donc, on lui a offert le Kilimandjaro. Et comme ce n'était pas pratique, à découper sur la carte, ça a fait une petite pustule, comme ça, on a découpé une petite bande complète. Ce qui fait qu'on a coupé une population en deux. Encore aujourd'hui, sur la carte, la population est coupée en deux. Vous étonnez qu'il y ait encore des guerres en Afrique entre les pays et des conflits. Mais enfin non, c'est pas grave, ça c'est la colonisation, c'est un autre sujet. Quoi qu'il rentre quand même à l'intérieur de notre propos. Vous voyez, donc. Mais je vous dis, 14 va nous faire synthétiser toute l'histoire du 19e et du début du 20e siècle pour exploser sur la suite. Parce que le résultat de 14, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, sans s'en apercevoir. Hein? Aujourd'hui, on dit, tiens, il y a un problème, tiens, on parle du Kurdistan. Vous parlez du Kurdistan ? Quand est-ce qu'on a commencé à parler du Kurdistan ? Au moment où les Kurdes ont eu l'autorisation par les Turcs de massacrer les Arméniens à l'appel pour occuper une partie de leur territoire. Alors, on a dit, on vous donnera une sorte d'autonomie de Kurdistan. Oui, mais il ne faut pas croire à la sublime porte. Hein. Mais de là, ils sont mis à rêver des choses. Aujourd'hui, c'est encore présent. Bon, ça va qu'ils se tapent suffisamment entre eux pour qu'il n'y ait pas un Kurdistan libre qui apparaisse, mais il y aurait plusieurs Kurdistans qui apparaîtraient. Mais c'est l'histoire. Et l'histoire, on la connaît, on la comprend, et on comprend ce qui se passe. Ou alors, on mène une politique comme les Américains. C'est en ce moment, au niveau politique, ils se trompent assez dans les répétitions successives. Alors, qu'est-ce que nous font les Allemands ? Les Allemands se lancent dans une politique. Alors, les Français sont en Algérie, ils ont plus ou moins protectorat sur la Tunisie, sur le Maroc. Protectorat égale pas colonie. Petite affaire de canonnière à Tanger. Bon, les Français arrivent à calmer le jeu. On recommencera à Casablanca. Oui, ceux-là, c'est des officiers allemands qui désertent, qui passent dans le camp français. Donc, les Allemands veulent profiter du prétexte pour débarquer, aller rechercher les vilains déserteurs allemands. On a failli partir en guerre à ce moment-là. Hein. Bien. Et l'année 1914, il y a encore de nouveau la canonnière Panthère qui se pointe à Tanger, avec incident avec les Français, et deux incidents avec des colonies anglaises. Mais on s'attendait absolument à rien du tout. Hein. Donc voilà un petit peu le travail pour l'Allemagne. Petite chose, c'est que l'Allemagne ne voulait pas s'engager dans la guerre. Parce que depuis quelque temps, les Russes, les Français, ils s'étaient mis ensemble. Et depuis quelque temps, notamment depuis 1912, il y avait des échanges entre la France et la Russie pour dire, alors si l'un des deux est attaqué, l'autre déclenche automatiquement la mobilisation. D'ailleurs, tiens, où est le président Poincaré au moment de Sarajevo ? Il est sur un petit bateau de chouchou qui va gentiment, en Russie, rencontrer Nicolas II. Où là, on scelle définitivement nos accords avec un traité, alors non pas un traité secret, hein. Pas un pacte secret, on dit rien, etc. Non, on l'annonce ouvertement, la France dit, si on attaque la Russie, 10 jours après, nous on est prêts. Et la Russie, si, nous, pareil. Ah oui, donc la Russie peuvent mobiliser 3 à 6 millions d'hommes. Il n'y a pas de Pologne. Bon, c'est vrai que souvent, d'ailleurs, sur la carte européenne. Ça, c'est un truc, je ne vois pas pourquoi on en parle, d'ailleurs. C'est épisodique. Donc, il n'y a pas de frontière, là. Donc, la frontière est directe. On peut directement y aller. Oh, le mauvais plan.
Les Allemands n'aiment pas ça du tout.
Et puis les Français, ben, eux aussi, peuvent. On a une frontière. Hein. Donc, vous imaginez, les Allemands se disent, si on bouge, on se fait attaquer par les deux. Donc le problème des Allemands, il est clair, c'est si la guerre se déclare, c'est on attaque lequel en premier ? Ouais. Ah mais c'est ça, hein. C'est clair, net et précis, on attaque lequel en premier ? Et je m'excuse pour notre fierté nationale, mais le plan Schlieffen, qui est établi à partir de 1905 avec quelques aménagements, mais dès 1905, ils ont ça dans la tête. Hein. On va rentrer dans l'art des Français, ça sera vite fait, bien fait. Et après, on ira s'occuper des Russes, parce que là, ils vont être plus nombreux. Et ils sont nombreux. Hein. Bien. Donc, c'est ce qu'ils vont faire. Sauf que comme la Russie va mobiliser plus vite que prévu, ils sont obligés de retirer des hommes sur le dispositif français. Ce qui fait que l'offensive de 14, d'abord, est ratée dans l'œuf. Et donc, eh ben, ils vont rater leur coup. Et le plan Schlieffen sera avorté. Bien. Donc, quelque part, c'est grâce à un ratage des Allemands qu'on gagne la guerre. Enfin, dès le début, en quelque sorte, ils ne la gagnent pas, en tout cas. L'Autriche-Hongrie. Ma foi, doit-on tirer sur une ambulance ? Oui, parce que c'est capital de savoir ce qui se passe et de savoir qui est tué à Sarajevo. À Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, qui est tué, est un homme clé. Je dis bien, c'est un homme clé pour la situation européenne. Le bon vieux François-Joseph, bon, depuis qu'il est là, ça fait plus de 50 ans, presque 60 ans, il a régné, ses règnes interminables, c'est pas forcément une réussite, et en plus, il n'a pas de chance, il a quasiment tout raté dans sa vie. Hein ? Sa femme a fini par lui préférer les femmes, ensuite elle se fait tuer par un anarchiste. Les enfants, on ne veut pas qu'ils aient des danseuses et qu'ils épousent les danseuses, ils suicident sauvagement. Enfin, ils suicident, peut-être qu'on... Enfin, on ne sait pas. Bon, peu importe, mettons qu'ils suicident. Bon, alors on dit, le pauvre François-Joseph, il a une vie désespérée. Le personnage en lui-même n'est pas un grand comique. Hein. Pas vraiment un grand comique. Et donc, il a, dans sa famille, deux figures qui vont être intéressantes. François Ferdinand, on ne peut pas le blairer. Il ne peut pas le sentir. Je vais vous dire à tel point il ne peut pas le sentir qu'il va déclarer la guerre, qu'on va enterrer François-Joseph et qu'il va interdire qu'on parle désormais de Ferdinand, et il va interdire désormais que l'on parle de Sarajevo et de l'archiduc. Alors que c'était l'héritier du trône. Et il va choisir Charles. Il est obligé de prendre un neveu, puisqu'il n'y a plus de branche directe, hein, il est obligé d'aller prendre dans les branches voisines. Et Charles est parfaitement lucide, lui aussi est dans l'armée, lui aussi a vu l'état de l'armée autrichienne. Et il dit, bon ben voilà, hein, on pose les armes, on arrête, on fait la paix des braves. Pas de chance, hein, ça veut dire que quelque part, le grand responsable de l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, c'est François-Joseph lui-même. Il a tout fait pour conduire sa puissance à la perte, à sa perte. Et pourtant, pourquoi la mort de Ferdinand est-elle aussi importante ? Eh bien, c'est que pendant un moment, on a dû lui donner des responsabilités, c'était le futur empereur, enfin, futur roi de Hongrie et empereur. Donc, on lui a confié l'armée. Il dit, dépatouille-toi avec ça, tiens. Ben, c'est qu'il était en train de réussir. L'Autriche-Hongrie n'avait pas de flotte. Il démarre une flotte pour l'Autriche-Hongrie. L'Autriche-Hongrie avait une armée qui était dans un état de vétusté tel que les effectifs, dans certains cas, possédaient encore des armes de l'époque napoléonienne, Napoléon Ier, que le seul véritable grand engagement qu'avaient tenté les Autrichiens, c'était face aux armées prussiennes à Sadova. On n'avait pas compris ce qui s'était passé. Eux-mêmes n'ont pas compris, mais c'était l'effondrement complet. Et si vous en voulez littérairement l'expression la plus grande, c'est... le roman La Marche de Radetzky, suivi de son appendice La Crypte des Capucins. Si vous avez jamais lu ça, sur 14, c'est un des très beaux textes à lire et peut-être un des plus beaux qu'on puisse lire sur l'Autriche-Hongrie, avec un petit texte d'Alexander Lernet-Olonia, à des auteurs un petit peu comme Schnitzler, comme Stefan Zweig, qui vont sortir, qui vont être le grand sursaut, le dernier grand sursaut intellectuel de l'Autriche-Hongrie. Et il a écrit un texte qui s'appelle « Le Baron Bage », hein, qui est un texte absolument halluciné, où vous voyez un officier qui va chercher son armée dans des zones où il n'y a plus personne. L'Autriche-Hongrie va rentrer dans la guerre. François Ferdinand est opposé. Le baron Tissa, qui est le chef du gouvernement hongrois, y est opposé. Une partie du gouvernement de François Joseph y est opposée. Et François Ferdinand a toujours été opposé à la tentative de jouer avec la poudrière balkanique. Et c'est parce qu'il est responsable des armées qu'il va assister à une petite représentation militaire à Sarajevo, parce qu'on a décidé qu'il fallait la faire à Sarajevo, juste sur la frontière des zones balkaniques. On parle de poudrière balkanique ? J'ai dit poudrière balkanique ? Mais de quand date le mot ? 1912. 1912, qu'est-ce qui se passe ? Le Monténégro déclare la guerre à la Turquie, à l'Empire ottoman. Si, si, le Monténégro, là, il n'était pas plus gros à l'époque qu'il n'est aujourd'hui. Hein ? Déclare la guerre à l'Empire ottoman. Petit problème, là, c'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et alors, là où ça devient gaguesque, c'est, n'ayant pas de général en chef, il confie son armée au gouvernement serbe qui a décidé d'aimer son voisin Monténégro, qui allait forcément avoir des problèmes puisqu'il s'attaquait à un gros. Le gouvernement grec se précipite au secours. De toute façon, dès qu'on fait quelque chose contre l'Empire ottoman, le gouvernement grec se précipite. Se précipite au secours du brave voisin Monténégro. Ah ! Alors, le tsar de Bulgarie, Ferdinand Ier, se dit « Moi aussi j'en veux !» Un bout de l'Empire ottoman. Hein. Et donc, il déclare la première guerre balkanique. Donc, déclarée par le Monténégro. Hein. Bon, qu'est-ce qu'aurait pu faire ce qu'on appelait à l'époque le concert européen ? Alors, si vous lisez quelques ouvrages un peu sérieux sur le sujet, vous verrez que, à partir de... Bon, l'idée était déjà présente, on verra ça avec Napoléon III, et l'idée de la fameuse Assemblée de Paris, où on a décidé d'ailleurs de la création de la Roumanie. On a commencé à se dire, il faut de temps en temps se réunir pour réfléchir sur le sujet entre ambassadeurs. Donc, on fait en quelque sorte des réunions d'ambassadeurs et c'est le concert européen. On se réunit dans des villes, généralement des villes d'eau, avec des casinos et des bains. Donc, ces messieurs sont parfois un peu âgés et ont des tendances à vouloir jouer ou à rencontrer des jeunes femmes. Donc, il faut qu'ils soient dans des lieux qui les mettent dans de bonnes dispositions quand même. On fait le concert européen. On se dit, oh, le concert européen va régler ça. Il a bien avalé bien d'autres choses. Alors, oui. On finit par dire ben, l'Empire ottoman perd. L'Empire ottoman perd. Mais ça, c'est un leitmotiv. Hein. L'Empire ottoman, à partir de Lépante et puis de Vienne, l'Empire ottoman perd, l'Empire ottoman perd, l'Empire ottoman... Ça devient monotone même à la fin. L'Empire ottoman perd et donc est obligé de céder les provinces macédoniennes, la République de Skopje, et la Thrace. Et on se partage le gâteau. La Grèce prend un gros bout. Bah, la Macédoine, c'est grec, quand même. Bon. Le Monténégro, il a juste un petit bout de frontière commune, et puis bon, il ne va pas non plus doubler de volume. On ne peut pas digérer des choses comme ça, ce n'est pas possible. La Serbie s'en prend un morceau. Bon, puis la Serbie, juste là, et... bon, on laisse un petit bout Monténégro, quand même, sur une carte, vous verrez, c'est très clair. Et puis on a laissé un bout, comme ça, à Ferdinand Ier, le tsar de Bulgarie. Lui, il n'est pas roi, hein, il est tsar de Bulgarie. J'insiste bien sur le fait parce que lui, il y tenait. Le tsar de Bulgarie, on lui donne une languette de territoire, plus la Thrace. C'est tout ! Il déclare la guerre à la Serbie, au Monténégro et à la Grèce réunie. Donc, du coup, l'Empire ottoman vient au secours de ses voisins grecs, monténégrins et serbes contre le Bulgare, 1913. Hein ? Bah oui, hein, un coup de pistolet, un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Hein. Je ne sais pas comment il était bleu le soleil, hein, il était bleu de Prusse. Donc, on est là dans une situation qui est, mais, folle.
Enfin, c'est du Huburoi. Ferdinand, évidemment, perd parce que la brave Roumanie arrive dans le dos de Ferdinand et en disant « Je ne veux pas un bout de l'Empire turc. Hein. Je viens juste vous aider comme ça, vous donner un coup de main. » On se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette bande de branquignoles ?» Enfin, il y a des morts. Hein. Il y a des sièges de ville. Il y a des tranchées. On y teste des obus. On y teste des canons. On y teste nos munitions. On voit dans les journaux français dire que le canon Creusot est meilleur que le canon Krupp. Ah, le canon de campagne français, il est impeccable. Assez simple, en 14, il a été éprouvé sur tous les champs de bataille coloniaux et européens. C'est le meilleur. Et on en a plus que les Allemands. Mais on va faire comme les chars Renault en 39. On en met un tous les kilomètres. Eh oui, c'est comme ça qu'on réussit à gagner des guerres en France. Bien. Donc, guerre balkanique. Ah ben alors, on redonne la trace à l'Empire ottoman et on se partage le bout qu'on avait donné à Ferdinand Ier et on lui pique un petit bout de Bulgarie en même temps. Ça va aider, ça. Hein. Bien. Depuis 1908, l'Autriche-Hongrie s'est annexée purement et simplement à la Bosnie-Herzégovine. Mais puisque la Turquie ne pouvait plus l'occuper. Donc, c'était là, il n'y avait pas de possesseur. Donc la Serbie dit « Moi je veux, moi je veux, moi je veux. » Et l'Empire austro-hongrois lui fait « Laisse. » Vous comprenez maintenant, lorsque la France vient en aide à la Serbie, parce qu'on a beaucoup aimé les Serbes, pourquoi ils n'ont pas très bien compris quand la Yougoslavie a explosé, pourquoi on n'a pas respecté nos engagements qu'on avait avec eux depuis le début, quoi, depuis avant 14. On a une vieille solidarité. Hein. Bien, donc la Serbie se dit, bon, maintenant qu'on a réglé le problème, la Bulgarie, on a piqué un bout, là on a piqué un bout. La Bosnie-Herzégovine. Et là, il y a Nicolas II, qui de temps en temps a des petites bouffées de puissance. C'est simple, de toute façon, chez lui, il ne peut plus rien dire. Sa femme est complètement envoûtée par Rasputin, donc s'il est chez lui, il faut qu'il écoute ce que dit Rasputin. Donc, il préfère être ailleurs. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il prendra la tête des armées, pour ne plus être chez lui. Il le dit, hein, dans ses courriers. Non, mais on en rigole comme ça, mais il le dit texto dans ses courriers. Ce sont ces gens-là qui gouvernent. Hein, il est là avec son cousin, le roi d'Angleterre, et son cousin, l'empereur d'Allemagne. Parce qu'ils sont cousins, ces trois-là. Hein ? Pour certains, ils ont grandi ensemble. Ils ont même failli se disputer pour la même femme. Ah. Bon, c'est là qu'on a envie de dire « famille, je vous hais ». Quand elles sont comme ça, en tout cas, oui. La poudrière balkanique, elle est là. Elle est en place, tout est prêt. Allez être surpris quand l'archiduc François Ferdinand débarque pour des manœuvres militaires à Sarajevo. Pas de la provocation, ça ? Et c'est l'état-major militaire qui l'a voulu. Et l'entourage de François Ferdinand lui a dit « Faut pas y aller, c'est un piège, ça sent le piège. » Trois jours avant, le premier ministre serbe, Pašić, qui lui n'est pas du clan des... Et oui, parce que chez les Serbes, il y avait aussi des pacifistes, enfin des non-militaristes frénétiques, a prévenu que le chef de la police secrète, Dimitrijević, qui a installé le Pierre Karađorđević comme roi de Serbie, Pierre Ier de Serbie, dans des conditions, sanglantes, très sanglantes, contrôle le pays. C'est simple, de toute façon, le Pašić dit « Je peux rien faire contre Dimitrijević, sinon il me tue. » C'est-à-dire dire l'autonomie de Dimitrijević, elle est totale. Il n'y a que Pierre Ier de Serbie qui peut arriver à le contrôler. Et encore, comme ils sont aussi fous l'un que l'autre, ils s'entendent très bien. Eux, leur objectif, c'est de faire la Yougoslavie. Unir tous les Slaves du Sud. Et quand ils parlent de Slaves, ils ont une vision très large. Ouh.
Donc, en quelque sorte, Dmitri Ivitch a carte blanche. Dmitri Ivitch a prévenu, et 10 jours avant, il prévient qu'il a armé un commando qui va aller à Sarajevo et qui est là pour gentiment jeter une bombe dans la voiture de François Verdrian quand il va passer. Je dis, mais vous êtes fous, non, mais attendez, vous allez déclencher la guerre, ils vont nous tomber dessus, l'Autriche-Hongrie, nous la Serbie, on est mort. Non, non, mais on a des alliances, tout ça, il n'y a pas de problème. Et là, Pacic se dit, faut que je prévienne l'Autriche-Hongrie. Et il prévient François Ferdinand. François Ferdinand est prévenu 3 jours avant son départ pour Sarajevo, et il y va quand même. Et sur place, les militaires vont lui faire un service d'ordre absolument lamentable. La bombe va exploser. François Ferdinand voudra aller voir les victimes à l'hôpital. Et lorsque la voiture repart, la voiture se trompe de chemin. Vous y croyez, vous, à ces choses-là? Non, mais honnêtement, ou alors ils ne savaient pas, hein, ou alors ils savent, c'est des criminels, ou alors ils ne savent pas, c'est encore pire. C'est-à-dire que quand on est responsable et qu'on est incompétent, c'est encore plus grave. Eh bien, c'est un petit peu ça, les états-majors que l'on a à l'époque. François Ferdinand représente ce qu'on appelle le Belvédère. Son ministère était au palais du Belvédère, opposé à la Hofburg, la grande puissance. Et donc, il disparaît. Et disparaît en même temps l'homme qui voulait la paix. L'homme qui veut... Alors, parce que là, c'est là que c'est important de savoir pourquoi lui a été tué et pourquoi sa mort est catastrophique. Lui a déjà noué depuis plusieurs années des relations avec un certain nombre de dignitaires russes. Il veut que l'Autriche-Hongrie retrouve la paix avec son voisin serbe. Il veut redonner des droits aux Serbes, aux populations serbes à l'intérieur de l'Empire. Il y a quand même 18 nationalités différentes à l'intérieur de l'Empire, avec leur propre langue. C'est un melting pot qui est presque réussi. Et lui, il veut dire « je veux le réussir ». Il veut calmer le jeu militariste avec l'Allemagne, et il s'entend parfaitement bien avec Guillaume II, et il est parfaitement capable de calmer Guillaume II, parce qu'il y en a certains, ils excitent Guillaume II, il part au quart de tour, mais lui est quelqu'un qui arrive à calmer Guillaume II, avec qui ils ont des échanges, on a les textes. Et cet homme-là a un défaut encore majeur, il est catholique, manipulé par les jésuites, enfin, manipulé par les jésuites, on ne sait pas si c'est lui qui manipule les collèges de jésuites ou les collèges de jésuites qui le manipulent, mais en tout cas, c'est très jésuite, tout ça. Et il veut essayer de faire, non pas un empire autrichien et une couronne hongroise, il veut faire une sorte de fédération danubienne. Il est évident que cet homme-là, il faut le faire disparaître. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun intérêt à voir remonter en puissance l'Autriche. Personne ne veut qu'elle remonte en puissance. Vous imaginez, l'Empire turc, non. La Russie, non. L'Allemagne, non. C'est eux qui doivent être la puissance montante en Europe centrale. Et la France, il faut dire que bon, on a une vieille histoire, nous, avec l'Autriche, parce qu'on dit nos adversaires, c'est l'Allemagne. Enfin, l'Allemagne, c'est tout récent. Mais non, notre grand adversaire, notre adversaire numéro un, celui qu'il faut battre, c'est l'Autriche. Et cela depuis François Ier. C'est simple, depuis François Ier, qu'est-ce qu'on fait? On part en guerre, il y a les Autrichiens. C'est eux notre véritable adversaire. D'ailleurs, quand on parlera de Napoléon III, on s'apercevra que la politique, elle tourne encore autour de qu'est-ce qu'on fait avec l'Autriche? Qu'est-ce qu'on fait avec l'Autriche? François Ferdinand était en train d'attendre qu'on mette gentiment, après l'avoir dépecé en morceaux, on les dépèce en morceaux, les souverains autrichiens, pour mettre le cœur par-ci, la tête par-là, on laisse le corps assécher dans un coin avant de l'enterrer, enfin avant de le mettre dans un cénotaphe, mais surtout, que le vieux, il meure, qu'on puisse démarrer une politique. Voilà. Les clés étaient prêtes pour une possible reprise en main de l'Autriche-Hongrie qui est en train de complètement se déliter. Ça va tellement se déliter qu'en 16, quand à son tour, François-Joseph va enfin pour son pays, enfin pour ses pays, disparaître, il faut voir que lorsqu'on parle de « oh, la pauvre France », je ne dis pas que la France
n'a pas payé cher la guerre de 14-18. Le nord de la France a été ravagé par la guerre de 14-18. Mais la guerre de 14-18, le pays qui a été le plus affecté, le plus touché, c'est l'Autriche-Hongrie. La plupart des frontières ont été percées. Toutes ces armées ont régulièrement perdu. Il y a eu un petit effort à un moment contre l'Italie, mais ça n'a pas duré, ça n'a pas tenu. Et le reste du temps, à partir de 1916, le pays n'est pas dans la disette, le pays est dans la famine. Dans la famine. Les images que l'on voit, ce sont des enfants squelettiques. Les enfants meurent tout simplement parce qu'ils n'ont pas à manger. Pour vous donner une idée, ils ne savent pas quoi faire des prisonniers, ils n'ont plus de camp de prisonniers puisqu'ils sont fait capturer des tas de terres, donc ils n'ont plus de camp de prisonniers. Donc les camps de prisonniers, c'est des trains qui circulent sur les voies plus ou moins désaffectées, les voies qu'ils n'utilisent plus. Ils les laissent dans les trains et puis de temps en temps, le conducteur du train laisse le train et vous avez des prisonniers russes ou des prisonniers ottomans qui sont là en pleine nature, dans des wagons. Une folie totale. C'est tellement, le système est tellement pourri, et nous sommes parfaitement au courant en France du système, que le chef des services secrets s'appelle le colonel Redl. Et le colonel Redl est un homme qui possède à peu près tous les vices imaginables, sauf celui d'être un véritable bon espion, parce qu'il vend tous les renseignements qu'il possède à deux États, la Russie et la France. Et pour vous dire à quel point on s'entend bien avec les Russes, et on comprend bien les Russes, et les Russes s'entendent bien avec nous, et on comprend bien les Russes, on se revend ses propres secrets-là, qu'on s'achète pour ne pas fâcher l'autre. On le sait déjà, mais on l'achète pour ne pas le vexer. Ce sont ces gens-là qui gouvernent la France à cette époque-là. Voilà. Bien. Juste au passage, le ministre du gouvernement hongrois, le premier ministre du gouvernement hongrois, Tisza, sera exécuté par des fusillé par des soldats en 18, lors du délitement complet de l'Empire austro-hongrois, lui qui a essayé de prévenir la catastrophe, et il a été fusillé en tant que responsable de la guerre. Elle laisse vraiment songeur, cette guerre de 14. Lorsqu'on parle par contre de fin d'un monde, il y a vraiment tout un monde, tout un univers qui disparaît. Tout est en train de partir à volo, tout se délite. L'Italie ? Ben oui, l'Italie, elle vient de naître. Ben oui, l'Italie comme l'Allemagne viennent de naître. Et d'ailleurs, c'est la faute de la France, hein ? À cause des deux Napoléons. Napoléon Ier a fait le grand recès en Allemagne. La pulvérisation de 380 États réunis en 17 gros blocs. À la fin de l'époque napoléonienne, on a gardé les 17 gros blocs. Et puis, progressivement, ils ont fait des grosses fusions, ils se sont réunis. Et puis, ils sont soudés à Versailles, contre Napoléon III, cette fois-ci. Puis l'Italie, c'est pareil. L'Italie, Napoléon était roi de Rome, puis après il a passé ça à Eugène de Beauharnais, puis il a passé ça à son fils, duc de Reichstadt, avez-vous dit. Ah ben oui, mais l'Italie du Nord, c'était toute une possession autrichienne, ça aussi. C'était en train de se réduire. Ah, la France a embêté l'Autriche, vous voyez, c'était bien notre adversaire. Et Napoléon Ier s'était déjà occupé d'abord des Autrichiens en campagne d'Italie, à deux reprises d'ailleurs, il en a mis une couche, puis une deuxième couche pour être tranquille. Napoléon III a remis une couche. Tiens d'ailleurs, il en met une couche à Solferino. Vous savez pourquoi il arrête et il négocie ? Parce qu'il trouve que les combats tels qu'ils se développent avec les armes mécaniques telles qu'elles sont à l'époque sont horribles. Et c'est là qu'il écoute le conseil d'un certain nombre de personnes, dont un certain Henri Dunant, et que se crée la fameuse Croix-Rouge. Et donc il va fâcher les Italiens en signant la paix de façon séparée avec les Autrichiens. Donc les Autrichiens donnent la Vénétie à la France, qui donne la France à l'Italie. Et on dit gentiment à Cavour et à Victor Emmanuel, bon, c'est ça, puis maintenant vous taisez, vous avez l'Italie, vous nous fichez la paix. Cavour va démissionner. Et l'Italie, il y a un truc qui lui trotte dans la tête, c'est on n'a pas eu tout le gâteau. On n'a pas eu tout le gâteau. Il nous manque un petit bout là, puis alors il nous manque tout le Tyrol là. Donc l'Italie partira. Alors, hésitera au début. Ils sont un peu vexés quand même. Ils ont un ressentiment avec la France. En plus, ils ont été gentils avec nous, ils nous ont filé le comté de Nice. C'est la dernière grande acquisition française. Dernière grande acquisition territoriale de la France, ce qui arrondit un petit peu toutes nos frontières, le comté de Nice. Et nous, on les prive d'un morceau. Donc ils ont un petit peu un ressentiment. Puis après ils vont se dire, bon, on va se mettre dans quel camp? Ah, on va se faire de l'Autrichien. Oui, parce que les Italiens, ils aiment bien les Autrichiens. Hein. C'est comme si vous proposez à un Polonais, hein, tiens, il y a des Allemands. Il va tout de suite dire oui. Hein? Vous dites à un Irlandais, tiens, il y a des Anglais. Il ne va pas résister. Il y a des choses comme ça sur les cartes européennes qui font qu'on a des alliés stratégiques involontaires. Bien. Ce qu'il y a de curieux, c'est que Guillaume II, conseillé par François Ferdinand, estime, alors que François Ferdinand est mort, hein, il estime à un moment, hein, 2 jours avant la déclaration de guerre, que, une fois que l'Autriche a fait des propositions à la Serbie et qu'elles ont été acceptées par la Serbie, 9 conditions sur 10, la 10e, c'est grosso modo, vous ouvrez vos portes, vous ouvrez vos livres de compte et on peut tout regarder. Là, la Serbie a dit, non, hein, on veut bien baisser notre culotte, mais on ne veut pas se mettre tout nu. Donc, 9 conditions, oui, la 10e, non. Donc, par surprise, parce que tout le monde pensait que c'était réglé. Par surprise, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie et le lendemain, bombarde Belgrade. 2 jours auparavant, Guillaume II, dans un courrier, indique qu'il n'y a plus de motif de guerre. Ça veut dire que l'Allemagne avait vraiment envie de faire la guerre. L'Autriche-Hongrie, ma foi, ils y ont été, mais ils y ont été, ils pensaient qu'on allait leur ficher la paix. Hein? Ils allaient mettre une belle grande claque à la Serbie, on allait arrondir un tout petit peu la Serbie, quelques généraux allaient pouvoir rajouter quelques médailles supplémentaires, et on aurait lavé le sang de l'archiduc assassiné à Sarajevo. Ça a été beau, ça, non? Vous croyez que j'en fais un peu trop, peut-être? Bah, les généraux à l'époque, ils y ont cru, eux. Et le problème, c'est que le peuple les a suivis. Et c'est pour moi, là, la tragédie de 14. C'est que les peuples ont suivi ces gens-là. La Russie, on en a parlé un petit peu avec 1905, c'est un effondrement complet. Le pouvoir ne sait pas très bien où il va. Autour de Nicolas II, il y a beaucoup d'ambition. Il y a un certain nombre de ses oncles qui prendraient bien le pouvoir, mais pas les emmerdements qui vont avec. Et en Russie, c'est pas possible. Voilà. Donc on y va, on va pour faire la guerre, et c'est parti. Et là, évidemment, grosse surprise des Allemands. Les Russes sont mobilisés. En 15 jours, ils mettent 9 millions d'hommes sur le terrain. Poum ! Bon, d'accord, il y a une grosse partie qui est sur l'Autriche-Hongrie qui ne va rien comprendre et qui va voir les armées russes passer, repasser. Et il y a des fois des armées russes qui font un tour, ils cherchent l'armée autrichienne. Mais il n'y avait pas d'armée autrichienne à ce moment-là, elle était sur le papier, mais elle n'était pas dans les faits. S'ils n'avaient pas eu le temps de la mobiliser, les Autrichiens. Non, mais on est à la limite du rire. Mais c'est affolant. C'est affolant. Et au final, les Russes, sur cette partie-là, vont prendre 600 000 prisonniers en 1914. 600 000 prisonniers qui n'y comprennent rien. Certains ont des officiers qui parlent autrichien et eux, c'est des Moldaves. Et ils ne comprennent pas un mot d'autrichien. Vous voyez, l'aberration totale. C'est ça que voulait essayer de réunifier François Ferdinand. Donc, l'Autriche-Hongrie se délite complètement. Et puis, face à l'Allemagne, là, c'est un autre morceau. Mais là, ils ont prévu, ils ont mis leurs meilleures unités, des beaux corps d'armée. Et Samsonov va vouloir que Rheinfeld ne soit pas le seul à gagner. Rheinfeld perce les lignes allemandes, parce que les lignes allemandes, bah, ils s'attendaient à ce que les Russes mettent du temps à mobiliser. Hein. Le temps que les Russes mobilisent et viennent du fin fond de leur Sibérie, on est tranquille. Ah ouais, on est tranquille. 2 semaines après, ils sont là. Ah! Donc on va virer le général sur place et on va se dépêcher de ramener Hindenburg en lui disant, si vous gagnez, vous continuez votre carrière militaire, si vous perdez, vous êtes à la retraite. De toute façon, vous êtes vieux, vous n'avez rien à perdre. C'est un peu comme ça qu'on lui propose le marché, je synthétise, hein, mais c'est ça les termes du propos. Il dit, oui, d'accord. Et coup de chance, il gagne à Tannenberg. Mais pourquoi il gagne à Tannenberg? Parce que le général Samsonov et son armée ne bougent pas. Il dit, on devait partir ensemble, Rheinfeld a rencontré les Allemands en premier, on aurait dû les rencontrer en même temps, je ne bouge pas.
Et quand il va apprendre que l'armée de Rheinfeld s'est faite écraser, alors vraiment pour le coup écraser, alors que les deux armées prenaient en tenaille l'armée allemande et ils n'avaient plus de retrait, l'armée allemande, et bien Samsonov va se suicider et son armée va rester coincée dans des marais dans lesquels la moitié des effectifs vont trouver la mort. On croit rêver. Le reste du monde ? Oh, le reste du monde, il va être très attentiste. Alors, il y a l'Angleterre. L'Angleterre, ils veulent faire la guerre. Ils veulent faire la guerre, pas du tout. Jusqu'à la dernière minute, l'Angleterre résistera à s'engager dans la guerre. Et puis, bon, bah, une fois que la Russie y a été, la France a respecté le traité, l'Angleterre est obligée d'y aller. Mais vraiment, ils y vont de mauvais gré. De tellement mauvais gré que ils ont un problème. Bon, on s'occupe de domaine maritime. Mais on n'a pas d'armée. C'était pas prévu. Alors pour le coup, eux, les Anglais, ils n'avaient pas du tout prévu le coup qu'il allait falloir envoyer des effectifs sur place. Donc, le BEF, le British... le BAF, le British Army Foreign, ou Army, je ne sais plus quoi. Bon, enfin bon. Le groupement anglais qu'on envoie sur place, eh bien, il est composé de 80 000 hommes. C'est tout ce que les Anglais arrivent à nous envoyer. Et là-dedans, il n'y a pas que de l'armée de métier. Il y a du jeune conscrit. Ils n'ont pas d'armée de métier. Ils ont une toute petite armée de métier, et leur armée de métier, elle est où ? Ah ! Où sont les armées anglaises ? En Inde, ça n'arrête pas de bouger là-bas. C'est simple, de toute façon, quand vous avez fini une révolte dans le Deccan, il faut aller au Cachemire, il faut aller au Punjab, il faut remonter là-haut, il faut descendre. Après, il y a les Afghans qui se réveillent. Tiens, c'est un peu comme aujourd'hui. Il faudrait dire aux Américains qui lisent un peu des livres d'histoire, surtout aux présidents américains, enfin, quand ils savent lire. Je pense qu'un certain président Bush devait avoir des problèmes pour les coloriages de livres. Donc là, il faut colorier la carte, ils n'arrivent pas à colorier la carte. Et on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Mais pourquoi ? Parce que là, les Russes, ils ont toujours rêvé d'un truc, les Russes. C'est de descendre par l'Afghanistan. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. De descendre par l'Afghanistan pour avoir une façade maritime. Parce que les Russes, ils ont un problème. Ils veulent des bateaux. Ils veulent aller sur l'eau. Ils ont trop de terre. Ils veulent aller sur l'eau. Ils n'ont pas de façade maritime. Et depuis Pierre Ier lui dit, il faut qu'on ait une grande flotte et qu'on contrôle les mers, on sera les maîtres du monde. Et ils veulent être les maîtres du monde. Donc la façade maritime est recherchée désespérément par les Russes. Donc les Russes, ils percent en Afghanistan, ça passe pas. Ils resteront, hein. Pourquoi ils vont en Afghanistan ? Pourquoi les Soviétiques vont en Afghanistan ? Parce que c'est toujours le rêve d'avoir une percée, une façade maritime. Parce qu'ils sont coincés. En Baltique, ils sont coincés. En mer Noire, ils sont encore plus coincés. Eh oui, et là, vous commencez à comprendre l'histoire, vous commencez à comprendre les déclenchements. Et puis, l'autre endroit où ils veulent percer, c'est ils essayent de percer, de descendre par le Caucase. Donc, on va faire tout ce qu'on va pouvoir pour énerver l'Empire ottoman, et puis on va soulever tout ce qu'on peut comme révolte possible, rien que pour enquiquiner les Anglais. Donc, les Anglais et les Russes, qui sont alliés dans la guerre, sont dans les zones coloniales... on va dire... dans des rapports légèrement conflictuels, mais très diplomatiques, hein, puisqu'on fait la guerre de façon interposée. Les Anglais adorent ça, et les Russes apprennent le grand jeu. C'est comme ça que ça s'appelle, le grand jeu. Oui, des millions de morts, mais c'est un grand jeu quand même. Bah on joue, non ? Ah, vous n'avez pas envie de jouer ? C'est dommage, ça. Ça me rappelle Grok. Qui veut jouer avec moi ? Hein ? Ben, le russe, c'est un peu ça. Qui veut jouer avec moi ? Ah, il essaye avec le japonais, mais alors le japonais, il est très désagréable. Hein. Les macaques. Bien. Donc du coup, les japonais rentreront dans la guerre de 14. Ah, oui, ils vont rentrer dans la guerre de 14 et ils occuperont Tsingtao, qui est la colonie allemande. Oui, parce qu'on a tous des colonies en... Tous les États européens ont une petite colonie en Chine. Hein. Oui. Ça, c'est grâce aux Anglais qui avaient beaucoup de drogue, ils ne savaient pas quoi en faire, donc ils ont fait la guerre de l'opium. La guerre de l'opium, ce n'est pas une guerre contre l'opium, hein.
C'est les Anglais qui ont fait la guerre aux Chinois parce que le gouvernement chinois voulait plus que les Anglais importent de l'opium en Chine. C'est ça, hein, la réalité de la guerre de l'opium, hein, faut pas confondre. Donc, tiens, voilà aussi un empire qui est en train de complètement s'effondrer, lui aussi. Donc, les Japonais voient ça, ils disent « Ah, bah tiens, on peut se mettre en guerre contre l'Allemagne ?» L'Allemagne, Tsingtao, trois bateaux, une garnison. Nous déclarons la guerre à l'Allemagne. Le Japon déclara la guerre à l'Allemagne. Après, ils s'associeront avec les Allemands, hein, parce qu'il y a d'autres colonies à côté. Mais il faudra prendre toutes les colonies sur place. Hein. La Deuxième Guerre mondiale, elle est déjà là, hein, en 14. Hélas. Bien. L'Angleterre. Ah, l'Angleterre, elle veut pas, hein, parce que bon... On va faire la guerre avec les cousins qui n'arrêtent pas de nous embêter, avec les cousins avec lesquels on s'entend si bien. Ah oui, on s'entend très bien avec Guillaume II. Régulièrement, il vient faire des régates en Angleterre. Régulièrement, je viens faire des régates sur la Baltique. On s'entend très bien. Bon, d'accord. Il commence à faire des bateaux, ça énerve l'amirauté. Donc les Anglais envoient un corps expéditionnaire. Ils vont avoir un énorme problème pour pouvoir arriver à mobiliser des hommes. Donc, ils vont faire comme d'habitude, les Anglais se battent jusqu'à la dernière poitrine de leurs alliés. Donc, ils vont mobiliser tout le Commonwealth. Bah oui, c'est l'expression classique. Hein. Donc, ils vont mobiliser... bon, d'abord, ils vont mobiliser les Écossais. Comme quoi, vous voyez, les Écossais... Le référendum de l'autre fois, il n'était pas par accident. Il y a une vieille histoire. Hein. Bon, tiens, pour vous montrer la bêtise, il y a eu un documentaire récemment qui est passé. Alors, je savais que c'était un petit peu le cas, mais alors, pas à ce point-là. Quand j'ai vu les chiffres, j'étais sidéré. Une grande partie de ces régiments étaient des régiments écossais. Donc, on avait comme spécialisation pour certains Écossais le fait de monter quand on montait à l'assaut. Donc, nous, on montait à l'assaut, un coup de sifflet, et puis on faisait monter, ou on disait un coup de gnôle, et on savait qu'on allait monter à l'assaut. Les Anglais, on mettait un Écossais en kilt, ou un pseudo-Écossais en kilt. Il y en avait un qui avait une caisse claire, mais pas armée. L'autre qui avait une cornemuse et pas armée, et il partait à l'assaut avec ça. On rigole comme ça, mais 6500 bonhommes se sont retrouvés comme cornemuseux pour monter à l'assaut, et la moitié sont quand même tombés. C'est-à-dire qu'on les faisait sortir des tranchées, on les met dans le no man's land sans armes. Tu joues de la cornemuse pour entraîner les autres. Allons-y. Bon, alors, oui, mais peut-être ça galvanise, peut-être. Alors, récemment, donc, dans ce documentaire, il y a un musicologue qui s'est amusé à enregistrer le son classique des cornemuses, et puis ensuite, il a enregistré un truc bête, hein, des tirs de mitrailleuse, des bruits de canon, un petit coup de marmite qui tombe par-ci, par-là, enfin bon, les bruits. À 3 mètres de distance, vous entendez pouic. Rien. On ne peut pas l'entendre. C'est simple, pour entendre une cornemuse, il ne faut quand même pas être trop loin. Lorsqu'il y a des mitrailleuses qui tirent dans tous les sens, des fusils qui tirent dans tous les sens, vous avez de la canonnade, vous avez du marmitage. Et puis après, ben, alors, il y aura les tanks. Alors là, ça va encore mieux, il y aura les moteurs. Enfin bon, les tanks anglais. Il faudra plutôt parler du tank pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ça, c'est aussi les grandes inventions de la Première Guerre mondiale. Bien. Hein ?
Il est sensationnel, il annonce.
Mais c'est qu'on a fait un bon travail. Alors, donc, on a simplement un système qui consiste à dire bah, l'Angleterre va se battre. Alors, bah, l'Angleterre bah, va convoquer des Canadiens, même des Québécois, mais ils vont venir pour la France. Et puis, on va faire venir, alors, de l'autre bout du monde, des Australiens, des Néo-Zélandais. À eux, on va leur réserver un traitement particulier. Les fameux Anzac, on va leur réserver un traitement sur la presqu'île de Gallipoli. Mais ça, je pense que je vais garder ça pour, voilà, pour la bonne bouche. Mais bon, alors on parle de ces effectifs. Alors il faut savoir, quand même une chose au passage, c'est que on peut dire que les Anglais se sont battus avec le Commonwealth. Mais enfin, on a mauvais gré de leur jeter la pierre. Pas nous. Pas nous. Il a compris. Bien, alors... non, on s'est servi copieusement, nous aussi, dans notre Commonwealth, à nous. Hein, on n'a pas lésiné non plus.
Et les troupes, au final, sur la guerre de 14, les Anglais vont envoyer beaucoup d'hommes, hein, beaucoup de jeunes gens au front. Et au final, il n'y a pas une perte plus importante dans les troupes coloniales, quels que soient les pays d'ailleurs, que dans les effectifs locaux. Tout simplement parce que sur 52 mois de conflit, hein, pour la France, on est à peu près à 6000 morts par mois, c'est la moyenne. Et on va bien garder la cadence, hein, avec de temps en temps une petite inflation. On aime bien en France une petite inflation comme ça. Donc la mort ne regarde pas la couleur des uniformes. Donc par moments, c'est vrai qu'on a plus utilisé certains soldats que d'autres, mais au bilan global, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement eu, sur la fin, des armées qui étaient plus sacrifiées que d'autres, et les Anzacs, une fois qu'ils ont été bien massacrés à Gallipoli, ils auront un traitement qui sera plus calme, hein, plus réservé. Bien d'ailleurs, pour annoncer un petit peu tout à l'heure, Humphrey Cobb, qui a écrit Les Sentiers de la Gloire, donc l'auteur des Sentiers de la Gloire, est un jeune Canadien, engagé volontaire à 17 ans, en 17, il fera la guerre, il sera blessé et gazé. Donc les propos qu'il tient ne sont pas, comment dire, des fadaises de romanciers gauchistes visant à discréditer les armées, surtout l'armée française, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, ce qui me permet d'arriver à tout seigneur, tout honneur. Bon, je ne parle pas de la Turquie. Selim est une sorte de maniaque. Il ne sait pas très bien ce qu'il fait. Il ne sait pas très bien qu'il gouverne un État. Par contre, quand il faut prendre une petite mesure sanguinaire, il n'hésite jamais. Demandez l'adresse aux Arméniens, ils vous la donneront tout de suite. Et quand on dit les Arméniens, il n'y a pas que les Arméniens. Mais les Arméniens ont bien donné. Il aurait pu continuer d'ailleurs avec d'autres pays sans aucun problème. Il contrôle un empire qu'il dit contrôler. Mais il quitte quand même pas trop Istanbul. Hein. Et la zone d'Istanbul. Il faut être prudent. La Palestine, il ne contrôle pas. Quant à l'Arabie, qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie saoudite, mais les Imsaouds n'ont pas encore pris le contrôle de tout ça. L'ancienne Arabie pétrée, tout ce désert-là, c'est à lui, mais il ne contrôle rien du tout. Et la seule tentative qu'il fera dans le secteur, c'est avec la voie ferrée qu'ont construit les Allemands, de descendre sur Suez pour occuper Suez, raté, et de descendre ensuite sur les champs pétrolifères d'Irak. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Et c'est dingue, hein. Il n'y a pas une conférence sur le... Voilà, bien. De toute façon, c'est simple. Je vous dis, à partir de 14, vous comprenez l'histoire d'avant et l'histoire d'après. Sauf qu'il ne faut pas écouter tous les bénis oui-oui qui vous disent « Ah ben c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme l'autre ». Bien, allez, la France. La France, depuis l'effondrement de 71, affiche dans toutes ses écoles construites par Napoléon III, mais qui sont des écoles de la Troisième République, bien entendu. Hein. C'est que la Troisième République a récupéré les écoles construites par Napoléon III en disant « c'est à nous », un peu comme Hitler a récupéré les autoroutes de la République de Weimar en disant « c'est nazi ». Ah oui, il faut toujours récupérer un truc clé en main, hein. Il ne faut jamais le laisser à son successeur, sinon vous en perdez la propriété. Donc, ils ont essayé, politique coloniale, pas très brillante. Nous avons des troupes coloniales, et nos troupes sont surtout entraînées pour être des troupes coloniales. Donc, qu'est-ce qu'on a affronté? On a affronté des adversaires qui étaient quand même relativement trapus, parce que la guerre du Rif, les Marocains ne se sont pas laissés faire. On a affronté toute la partie indochinoise qu'on est en train d'occuper, la plupart du temps, quand on a gagné, c'est parce qu'on a négocié. Et on a eu 2-3 expéditions quand même. À Pékin, on a réussi, mais bon, c'était à l'époque de Napoléon III. Donc, ah non, alors on n'a pas réussi en Chine. On n'a pas réussi. Parce que c'est simple, hein, tout ce qu'on a réussi sous Napoléon III, c'est soit la Troisième République a pu le... ou alors c'était un ratage. La Troisième République est partie de scandale en scandale. Alors, l'affaire des fiches qu'on évoquait tout à l'heure, l'affaire Dreyfus qui divise bien l'armée aussi et qui donne une image de l'armée qui est positive, parce que ça aussi, il faut y penser. Et n'oublie pas une chose, le capitaine Dreyfus fera sa guerre de 14-18 comme capitaine. Ah bah oui, il a perdu de l'avancement, mais quand on va à l'île du Diable, on peut pas avancer non plus en grade. Hein. Bien. Et là... On en arrive au final, en quelque sorte, 14. 14, on veut la guerre. On veut la guerre, mais... Et c'est pour ça que je dis que c'est une surprise, et c'est une surprise qui est tragique. C'est qu'on n'a pas du tout prévu que ça se passe comme ça. D'abord, on n'a pas du tout prévu, les États à l'époque sont encore des grandes puissances agricoles, enfin, c'est n'importe quoi de démarrer une guerre en plein milieu de l'année et de faire une mobilisation, d'être obligé de faire une mobilisation générale le 1er août. La France dit, les Français sont sous les drapeaux à partir du 1er août. Bon, ouais, oui, on a tous les rapports qui nous indiquent que y a des agriculteurs, ils se sont dépêchés d'aller faire les moissons, puis ils sont arrivés avec 2 jours, 3 jours, 5 jours de retard. Alors, ils incorporent comme on peut. Allez, c'est le grand bazar. Et puis, nous avons des plans. Parce que, avec Napoléon III, l'armée française n'avait pas de plan. C'était très simple. On était tout équipés, on allait marcher sur Berlin. Ça, c'est un plan. On s'est dit, c'est pas bien. Alors, tout à l'heure, je vous parlais du grand jeu. Les Allemands, l'état-major allemand, a joué à un jeu qui s'appelle le Kriegsspiel, le jeu de la guerre. Le jeu de la guerre, c'est l'ancêtre des jeux de rôle, des jeux de plateau. Je ne sais pas si vous avez joué à ces jeux. Vous savez, on reconstitue une bataille sur des petits tableaux hexagonaux. Eh bien, c'est les Allemands qui sont à l'origine de ce système-là. Les Allemands se sont dit, tiens, si on trouvait un moyen, alors plutôt que de jouer avec des petits soldats, on jouait beaucoup avec des petits soldats dans les autres états-majors. Si on trouvait des cartes, et puis qu'on disait, tiens, en fonction des cartes, on met des malus, si tu es dans une zone de marais, tu ne peux pas avancer, etc. Et ils jouaient à ces jeux-là avec toute une série de règles. Et il dit, tiens, comment on peut faire avancer? Et les officiers subissaient cela pendant leur instruction militaire. Dans cette instruction militaire, ils apprenaient aussi un certain nombre de choses. D'abord, ils apprenaient ce qui s'était passé dans les guerres précédentes. Clausewitz était évidemment au programme, mais surtout, au-delà de Clausewitz, on étudiait les autres guerres qui avaient lieu ailleurs. Donc ce que les Allemands faisaient, tous les autres auraient pu le faire. Donc la grande force des Allemands, elle tient simplement à ce qu'ils ont eu un petit peu plus de curiosité et 2 ou 3 hommes qui devaient être un peu plus intelligents que les autres, en moyenne, dans leurs écoles militaires. Ils se sont dit, on va examiner ce qui s'est passé. 1861-1865, ça vous dit quelque chose? Ah oui, elle a cessé, c'est sûr. Donc la guerre de sécession a eu lieu en 61-65 et elle, c'est la première guerre moderne. Première guerre où on utilise des armes à répétition, fusil à répétition, en charge, et c'est la première guerre où on voit apparaître la fameuse mitrailleuse. C'est là aussi où on voit apparaître des tranchées. Ah oui, parce que les tranchées, on les a découvertes en 14, Nous, oui, les Allemands, ils savaient. Ils avaient vu comment, pendant la guerre de sécession, les sudistes minoritaires, parfois à 1 contre 3, 1 contre 4, bloquaient complètement une armée. Bull Run, bloqué. Cold Harbor, bloqué. Cold Harbor, c'est 4 contre 1. Général Stonewall Jackson, donc Stonewall, c'est mur de pierre, c'est le surnom qu'on lui avait donné, bloque une armée 4 fois supérieure en nombre. Quand vous voyez l'équipement des armées sudistes et l'équipement des armées nordistes, vous dites, comment il a fait? Des mortiers, des tranchées, des postes avancés. Et dans les postes avancés, on mettait les mitrailleuses en tir croisé. C'est lui qui l'invente. En face, le général Sherman, baptisé par ses hommes le boucher. Oui, parce qu'il avait le record dans toutes les armées nordistes du nombre d'hommes qu'il arrivait à tuer dans chaque bataille. On a oublié le général Stonewall Jackson, on se souvient encore du Sherman. Curieux les hommes quand même. Bien. Et dans cette guerre, on sait que des tranchées, ça fonctionne. On sait que des mitrailleuses, ça fonctionne. On sait que des mitrailleuses, il faut les mettre groupées et en tir croisé. On sait que si vous voulez attaquer, parce que les sudistes ont tenu, mais les nordistes ont essayé de trouver des techniques pour. Ils sont aperçus que quand on attaquait en ligne comme ça, en paquet, c'était un carnage. Tandis qu'on attaquait dispersé, les cartouches se dispersaient, et là où on perdait 8 hommes sur 10, vous entendez bien, 8 hommes sur 10, on en perdait 1 à 2 sur 10. On le savait, c'était écrit. Comment les Français attaquent les lignes allemandes? Groupés. Avec un pantalon garance, une casquette sur la tête. Pourquoi pas avec un tuba et des palmes aussi, Non mais, on rêve.
On rêve. Alors, on dit, ah, mais ils ont le meilleur fusil possible à l'époque, le Lebel. Oui, mais un fusil, ça ne fait pas tout, quoi. Et là, j'ai vraiment envie de réfléchir sur ces hommes, le mépris qu'on doit avoir pour ces hommes qui sont sacrifiés dans ces conditions-là. Parce que c'est ça que moi, je pense. Quand cette guerre me fait mal, au point parfois d'avoir les larmes au bord des yeux, je me dis, mais on a fait ça à ces hommes? Ils ne sont pas rebellés? Il y en a quelques-uns qui ont fini à force par dire, mais non, c'est pas possible. Il va avoir des valeurs qui étaient autrement plus puissantes que les nôtres. Bien. Donc, nous voilà prêts à partir en guerre. L'Allemagne a son plan Schlieffen. Comment va fonctionner le plan Schlieffen pour la France? À quelle sauce on va être mangé? Blitzkrieg, guerre éclair. Oui, c'est pas Hitler qui a inventé le coup. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a Verdun, Luxembourg. On passe sur la Belgique. De toute façon, il n'y a rien en Belgique. On passe sur la France et au sud du dispositif, on entoure Paris. Dans 3 mois, les armées françaises sont cuites. Pourquoi? Parce que les armées françaises auraient été obligées de se replier sur la ligne des Vosges, ce qu'on voulait reconquérir, et donc se battre le dos à ces fortifications. Militairement, ça ne tient pas, donc les armées françaises étaient cuites. Sur le papier, c'est merveilleux. Dans les faits, ça a failli marcher. Dans les faits, ça a failli marcher. Quel est le petit grain de sable dans la mécanique? Il y a 2 grains de sable dans la mécanique. Un, d'abord, il y a l'énorme surprise des Russes. On n'a pas du tout prévu que les Russes allaient se mobiliser aussi vite et étaient déjà là. Donc, eh bien, on va renvoyer un corps d'armée du front, bascule vers le front de l'Est. Donc, évidemment, ce corps d'armée-là, il va manquer aux Allemands. Et ça, sur le papier, on le voit bien. Hein, il manque à la bataille de la Marne. On sent qu'il y a un vide dans les effectifs. Il y a un trou dans les effectifs. Et puis, il tient, alors surtout pas grâce à cette grosse baderne de Joffre, hein, cet homme qui ne mérite pas d'avoir son nom de mi-partout, parce que... Non, mais il faut imaginer, je vous dis tout à l'heure, ma révolte face aux gens qui ont fait ça, mais Joffre, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous allons appliquer le plan 17. Qu'est-ce que c'est le plan 17? Nous allons prendre la même charnière, Verdun, et nous allons rentrer par l'Alsace et la Lorraine directement vers l'Allemagne. C'est ce qu'on fait. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire pendant 2 semaines. Des grandes lignes de soldats, avec de temps en temps quelques canons, une mitrailleuse par-ci, par-là. En face, les armées allemandes répliquent zone par zone avec des gros effectifs, beaucoup de canons, beaucoup de lignes mitrailleuses. Les Français, en 15 jours, ont des pertes suffisamment nombreuses pour pouvoir se replier. Donc le plan 17, on le prend. Poubelle. Nous avons commencé la guerre, le plan est à la poubelle. Et les Allemands, eux, violent la neutralité du Luxembourg, violent la neutralité de la Belgique, rentrent en Belgique. Ah, il y a un truc qu'ils n'ont pas prévu. La petite Belgique se révolte. Le roi Albert Ier va dynamiser les Belges. Ils vont y perdre quand même 120 000 hommes. Hein. En l'espace de quelques jours. Ça sera enfin, si on fait ça à l'équivalent de la France, ils ont été encore plus saignés que les Français en très peu de temps. Et ils arrivent sur la frontière. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Logiquement, c'est ce que dit Napoléon dans ces cas-là, hein, c'est pas un mauvais stratège. On va au bruit du canon. Non, non. On attend que les Allemands arrivent. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. On a recommencé en 1939. On n'avait toujours pas compris. Hein. Et ils sont passés par le même endroit. Ils nous ont fait le même coup. Et on a recommencé la même ânerie. Effrayant. Et donc, là, il y a un certain nombre d'hommes qui... Alors, on est là sur le dispositif. On a une réserve qui est adossée à la mer, hein, sur Dunkerque, qui prend cette zone-là. La réserve. Général Damade, qui n'en peut, mais qu'avec des réservistes. Voilà, donc, lui, il ne cherche pas l'affrontement. En face de lui, il a Von Kluck, qui est le corps d'armée de frappe qui doit faire le terrain le plus large, parce qu'il doit traverser le nord, la Picardie, une partie de la Normandie pour arriver sous Paris, pour arriver sur Provins, une fois que les autres, eux, ils auront fait le chemin. Alors, plus ils sont proches de Verdun, moins ils font de chemin. Hein? Et là, c'est le Grand Prince qui est là, qui occupe ce terrain-là. Seulement, Von Moltke est vieillissant. Von Moltke ne tient pas très bien. Von Moltke, le chef d'armée, est vieillissant, ne tient pas la route. Et Von Kluck a un voisin, Von Bülow, qui est son grand ami. Von Bülow, ce n'est pas un grand militaire. Il a un nom héroïque par rapport à l'histoire allemande. Mais alors, c'est pas. Il suit les mouvements qu'on lui demande de suivre. Mais alors, il n'a aucune inventivité. Et en face de lui, il va voir un général. Et j'aimerais qu'on se souvienne de son nom aujourd'hui. Parce que autant je vomis Joffre, hein, qui après, une fois qu'il aura failli perdre la bataille, failli perdre la France, ensuite presque gagner la bataille, presque perdre la bataille de la Marne, parce que s'il n'avait pas eu en face de lui Gallieni, qui était son ancien chef, et qui faisait pression au niveau du gouvernement, de toute façon le gouvernement il faisait pression, c'est simple, le gouvernement était déjà à Bordeaux. Hein, 15 jours de plus, il est en Espagne. Donc Gallieni est le seul qui tienne à peu près à Paris. Joffre finit par obtempérer. Et après, le général Joffre, le vainqueur de la Marne, hein, ce salopard-là jusqu'à 1916, va faire des attaques successives sur les troupes allemandes en disant « on les grignote ». On les grignote. 800 000 morts. 800 000 grignotages. Et vous trouvez qu'il est normal d'avoir des avenues Joffre et des places Joffre un peu partout dans notre pays ? Mais on est suicidaire ou quoi ? On ne connaît pas notre histoire ? On n'a pas honte ? Par contre, il y a un général qui tenait le 5e corps d'armée, détesté par Joffre, mais hyper compétent. C'est lui qui s'occupait de l'instruction d'une partie des généraux et des officiers à l'école militaire. Le général Lansrac. Le général Lansrac tient le 5e corps d'armée. Il est à l'extrémité du dispositif, il est devant Mons. Juste à côté de lui, il y a le corps expéditionnaire anglais, 80 000 hommes, avec le général French. Il s'appelle French, mais alors il est très british. Hein. Et on l'a nommé là, et on a dit « Ah, bah si tu gagnes, tu seras maréchal. » Donc il est venu. Il attaque. Il manque de se faire... Oh, plus qu'écrabouillé. Écrabouillé en partie et être prisonnier pour le reste. Le corps expéditionnaire en entier. Lansrac le sauve en intervenant. Et ensuite, il dit, bon, il faut arrêter les plaisanteries. Nous avons un corps d'armée plus un corps expéditionnaire anglais. En face, nous avons deux corps d'armée, pas des armes, deux corps d'armée allemands parmi les deux les plus puissants, dont le corps de choc, Von Kluck. Et ces gens-là se connaissent. Hein. Et Lansrac savait que de tous les militaires qui étaient en face, le plus dangereux, c'était Kluck. Et Kluck savait qu'en face, la pièce de choix, c'est Lansrac. Lansrac dit, il faut se retirer. Il faut se retirer. Au fur et à mesure qu'on apprend les nouvelles sur la frontière, on s'aperçoit que la frontière belge est en train de craquer de partout. Donc, il faut se retirer. Et Joffre donne l'ordre, nous avons les documents. Il donne l'ordre à Lansrac de contre-attaquer, d'attaquer les armées de Moltke et de Kluck. Lansrac refuse. Joffre le menace d'insubordination. Conseil de guerre, exécution le lendemain. Je parle d'un général de corps d'armée. Lansrac obtempère, il regarde sur la carte, il prend ses renseignements, il voit qu'il y a un village, Guise, dans lequel on peut arriver à coincer les Allemands. Il fait une contre-attaque sur Guise, il permet de sauver une partie de ses hommes, il perdra 3000 hommes prisonniers. Et à Guise, oh, c'est simple, il y a une rivière, il y a des ponts, on va se canarder gentiment de chaque côté de la rivière et on va repartir. La France a gagné face aux Allemands. Ah oui, hein. J'avais oublié, tiens, pour reprendre au début. Grand mot inventé pendant la guerre de 14-18. Le bourrage de crâne, ça vient de là.
Les journaux sont tellement censurés, sont tellement caviardés, que certaines premières pages de journaux, premières pages des journaux, vous avez plus d'espace vide que de texte imprimé. À la suite de ça, qu'est-ce qu'on aura ? Ben, il va falloir des hommes, il va falloir de quoi alimenter les canons. Il faudra remplacer les hommes. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Toute une série de lois. Toutes les lois sociales qui avaient été acquises, d'abord sous Napoléon III, en partie réduites par la Troisième République et rétablies progressivement, elles sont toutes supprimées. Le travail le week-end. On ne travaillait pas le dimanche, rétabli. 8 heures par jour, supprimé. Le travail des femmes, le travail des enfants, réduit. Toutes les lois sociales vont être pulvérisées. Désormais, le gouvernement, au nom de l'Union nationale, a le droit de faire ce qu'il veut, quand il veut, pendant 52 mois. C'est ça, 14. Lanzerac sera démis de ses fonctions, il sera remplacé par Franchet d'Espéret. Le cinquième corps a offensé le général von Bülow et le général Moltke a l'intention de venger cet affront. Et du coup, jusqu'à ce que Lanzerac atteigne le nord de Paris, eh bien il va poursuivre l'armée de Lanzerac, la 5e armée et le corps britannique. Ce qui nous permet d'avoir le corps britannique qui ne réembarque pas à Dunkerque. Le général French nous en avait menacé de repartir avec son corps militaire, son corps expéditionnaire. Et donc, le corps expéditionnaire se trouve au nord de Paris. Et ensuite, il y a le 5e corps qui est là, avec sur son dos von Bülow, qui suit le corps d'armée qu'il doit attaquer, et von Kluck, qui lui devait attaquer sous Paris, passant entre Paris et Fontainebleau, et cernant la capitale. La capitale n'est pas cernée, Paris est libre. Gallieni peut déclencher tous les systèmes de troupes et d'un seul coup on comprend que les trains ça va servir pour la guerre. Le camion, l'automobile, alors les taxis c'est dérisoire, les taxis c'est un beaucoup de pub, on va emmener 4000 hommes sur place. La contre-offensive de la Marne, excusez du peu, c'est 380 000 hommes. Ce n'est pas les taxis de la Marne qui ont changé la donne. Ce qu'il y a c'est que ça a changé l'état d'esprit. C'est-à-dire que d'un seul coup on dit stop, on se retourne et on y va. On va perdre des hommes. À la fin de 1914, ça sera la période la plus redoutable pour la France, puisque nous ne perdrons pas autant d'hommes pendant le reste de la guerre en moyenne journalière. C'est l'offensive de la Marne qui a été la contre-offensive de la Marne qui a été la plus redoutable. Pourquoi ? Je vous l'expliquais, l'armement, on a ce qu'on a. On a juste des canons de campagne, ils sont très efficaces, mais c'est du canon de campagne. Il faut avoir les ennemis à 4 km et bien visés. Quand vous êtes en mouvement, ce n'est pas très efficace. Nous n'avons pas de mitrailleuses que nous utilisons comme les Allemands. Donc nous n'avons que des hommes qui combattent en pantalon Garance avec une casquette et leur fusil Lebel. Excusez-moi, mais il fallait en avoir pour y aller. Et là, ce n'est pas Joffre qui a sauvé le pays, c'est eux. C'est ça l'année 14. Un début. Début d'une grande boucherie qu'on aurait pu arrêter. Il n'y avait aucune raison de l'entamer. On ne sait même pas pourquoi on l'a entamé. Et au fond, tous ceux qui sont partis pour l'entamer, tous ceux qui ont été les responsables, que ce soit les Dimitrievitch, par exemple, serbes ou autres, je crois qu'ils n'ont même pas eu conscience, ils n'ont même pas compris ce qu'ils faisaient. Je crois que c'est ça le pire encore. Et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Voilà. Tout à l'heure, on verra les sentiers de la gloire. On peut dire ce qu'on veut de ce film. On peut dire ce qu'on veut de beaucoup de films, d'ailleurs, sur la guerre de 14-18. Ils ne reflèteront jamais suffisamment la réalité. Alors, je sais que certains vont me dire, mais qu'est-ce qu'il faut lire sur 14 ? Donc, je vous dirais, il y a quelques temps, chez Omnibus, est sorti les grands romans de 14-18. C'est quand même le grand classique sur 14-18. Vous avez plusieurs romans qui sont présents. Et puis, moi j'ai la vieille édition, je sais qu'ils l'ont ressorti. La chose, le texte le plus à la fois réaliste, le plus proche de la réalité des hommes, le plus émouvant, et J'irais peut-être un des plus honnêtes, parce que Genevoix n'avait pas d'idée politique à défendre, il n'avait rien d'autre à défendre. C'était un Français, il a voulu dire, ben voilà, il y a des Français qui se sont battus, et ils se sont battus dans les conditions dans lesquelles ils étaient. Et je dirais qu'on se sent très proche de ces hommes, vraiment les pieds dans la boue, mais des gens qui sont les pieds sur terre. Ceux de 14 de Genevoix.
Le grand troupeau de Giono.
Mais je vous dis, il y a des... Barbus, c'est un très... Oui. Le feu de Barbus est très beau. Mais Giono écrit avec, avec déjà une idée pacifiste. Barbus écrit avec les idées socialistes dures. Il est plutôt guédiste, avant de passer communiste, puisqu'on va avoir aussi le communisme qui va sortir avec les ruptures à l'intérieur. D'accord ? Donc, le texte le plus neutre politiquement, le plus neutre au niveau des engagements des individus, c'est, je pense, le ceux de 14 de Genevoix. Ah ben oui, on peut lire tous les textes, contre la guerre de Romain Rolland. Ils sont précieux et capitaux. Dorgelès, il est là aussi. Et puis on peut lire Joseph Kessel, l'équipage qui nous parle très bien des avions.
Et de ça. Applaudissez très fort Stéphane Le Couëdic. Qui nous a fait, comme d'habitude, un tableau synthétique, et je suis d'accord à 200% avec tout ce qu'il a raconté. Donc, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce bouquin-là de Christopher Clark, ça correspond aux trois quarts, disons, les prémices. Tout ça, d'une façon très détaillée, c'est ce qu'il nous a raconté au début, avant le détail des opérations. Jean-Yves Le Naour, qui a fait guerre 14 pour les nuls. Donc, et il a fait une série de bouquins qui s'appelle 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, qui donne le détail des opérations, et son opinion sur Joffre est quasiment la même que celle qui a été exprimée publiquement ici. Voilà. Donc, il remet un petit peu les choses en place. Et donc, je rappelle, comme je l'ai dit, l'exposé qu'avait fait Stéphane il y a quelques années sur le bourrage de crâne, on va dire. Et j'ai rappelé, avant que vous arriviez, que vous aviez fait une bibliographie sur tous ces textes, les crapouillots. Et...
Oui. Vous avez donné des documents aussi. Vous les avez eu, les documents ?
Je ne me souviens plus. Ah, ouais. Ça, vous vous souvenez de ça ? Donc ça, je le remettrai sur le site pour que vous puissiez le télécharger et après faire des bibliographies complémentaires, si vous voulez. Voilà. Donc merci. Donc venez nombreux à 18h30. Venez un petit peu avant pour avoir le tarif UTB, c'est le tarif bobine. Donc 5,20€. À l'Axel, la séance est à 18h30, venez un petit peu avant pour acheter vos tickets, et puis donc on refera une présentation très rapide du film, et ensuite on assiste à la projection, et il y a une heure de débat. Je ne vais pas y arriver, de débat à la suite.
Il veut me tuer. Alors moi je rajoute juste, si vous voulez vraiment avoir, alors c'est le gros pavé, c'est un texte plutôt universitaire, mais ce livre-là a créé un scandale colossal. Il reste encore une base pour toute étude historique sérieuse, c'est le témoignage de John Norton Crewe, et c'est un ancien combattant de 14, et il a commencé à lire des souvenirs de ses compagnons. Et là, il a dit, ça c'est pas possible, là il n'était pas là, tel régiment. Et il a commencé à compulser l'ensemble des documents pour dire, ça marche pas. D'accord ? Et donc vous avez les romans, les pièces de théâtre, les articles, les souvenirs. Il a tout décortiqué. Cette thèse reste à l'heure actuelle une des thèses sur l'histoire et sur la fragilité du témoignage, une thèse capitale. C'est vraiment, alors si vous voulez rentrer dans les souvenirs de 14, je vous conseille, ça a été pendant longtemps, mais alors introuvable, moi j'en avais une édition au Charpie. Donc c'est des presses universitaires de Nancy, ça s'appelle Témoin. À l'époque c'était du témoignage. Et juste la préface, Pauvert est mort, je peux lui rendre un petit hommage au passage parce que je l'ai connu, il avait fait paraître dans sa collection Liberté, parce qu'on vous a parlé de Pauvert, pour ceux qui savent qu'il est décédé cette semaine, Jean-Jacques Pauvert avait édité non seulement Sade et beaucoup d'érotiques, mais il avait aussi une collection qui était une collection phénoménale de textes qui s'appelait la collection Liberté. Et dans cette collection Liberté, il avait fait paraître la préface
du John Norton Crew, du témoignage, qui avait fait de nouveaux scandales. Hein? Ce livre-là est encore aujourd'hui un pavé dans la mare. Il y a des gens que ça dérange. Parce que, ah oui, mais les témoins, ils disent la vérité. Faux. Faux. Les témoins, ils disent ce qu'ils peuvent, et puis c'est tout. Voilà.
Donc, si vous voulez voir, il y a quelques facsimilés de journaux de la guerre là, qu'il a apportés. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Alors,